Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Sarah Alice Bloch, dite Marianne Oswald, était née en 1901 à Sarreguemines, dans une Lorraine alors annexée. Marianne Oswald, c'est un nom aujourd'hui un peu oublié. Une chanteuse, une comédienne, mais plus que cela ou autre chose que cela. Rejetée par sa famille ou fuyant la montée en puissance nazie, depuis tous ses exils, des cabarets de Berlin à ceux de Paris, elle aura été une passeuse, une muse, une égérie. La voix des poètes, une voix pour chanter tout ce qui vibre, souffre et se débat. Je suppose, écrivait Jean Cocteau à propos de Marianne Oswald, que c'est cette puissance rouge d'incendie, de mégots, de torches, de phares, de fanales qui l'habite, cet acharnement de braise, cette haleur de gaz d'acétylène, de magnésium et de lampes à souder, qui forment l'efficacité de cette chanteuse, de cette mime que bien des esprits repoussent, mais qui s'impose malgré tout. Quant à Barbara, elle disait d'elle « J'ai été très frappée par Marianne Oswald. C'était d'une férocité, d'un modernisme, d'un désespoir. C'était stupéfiant, Marianne Oswald. » En 1966, Marianne Oswald se racontait dans une série d'émissions intitulée « Surgit de la mémoire », dont voici le troisième volet.
« Surgit de la mémoire », une émission conçue et écrite par Marianne Oswald, aujourd'hui « La voix du crime ». Avec le concours de Martine Sarcey, Jean Topard, Jean Patrick et Marianne Oswald. Illustration musicale et accompagnement de Claude Roland. Réalisation Jean-Wilfried Garrett.
Un jour, Max-Paul Fouché parlait à la radio de la chanson dite intellectuelle et me citait parmi d'autres interprètes comme à l'origine de ce genre. À ce moment-là, il est vrai, la chanson prenait un nouveau visage. La chanson réaliste avait fait son temps malgré d'inoubliables chanteuses.
La chanson poétique qui est à l'honneur aujourd'hui était à ce moment-là représentée par la ravissante Raquel Meller, la Violette Terra. Et cette avant-garde d'alors a trouvé une consécration définitive chez Juliette Gréco, chez Barbara.
Je n'avais pas une prédilection particulière pour les chansons des amours unis ou désunis. Néanmoins, il y en a une que j'aimais beaucoup. Déjeuner du matin. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler, sans me regarder, il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans me parler, sans me regarder. Et moi, J'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai pleuré. Le thème des amours désunis, un beau thème pour une chanson. Mais d'autres sources d'inspiration me touchent encore plus. L'enfance malheureuse, par exemple. Je peux en parler, mais ce soir, je le laisse à Jacques Prévert dans la préface de mon livre « Je n'ai pas appris à vivre ».
Marianne Oswald, elle n'a jamais appris à vivre, n'a jamais appris à rire, n'a jamais appris à pleurer. Déjà toute petite, elle savait. Et beaucoup dans le monde, dans le petit monde, dans le bas monde, dans le pauvre monde, dans le vrai, sont comme elle. C'est pour cela qu'elle chante. Et si sa voix ne ressemble à aucune autre, c'est qu'elle est à peine sa voix, mais bien plutôt la voix de milliers et de milliers d'autres qui ne chantent pas, qui ne chantent plus, ou qui n'ont jamais osé chanter.
Un beau jour, Jacques Prévert et moi, nous parlions des maisons de redressement, des bagnes d'enfants, dont l'un se trouvait à Belle-Île. C'est de cet entretien qu'est né La chasse à l'enfant. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Tous ces messieurs sur le rivage s'embredouillent et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Je savais ce que c'était, une enfance pas heureuse.
Marianne était une toute jeune fille. On l'avait opérée de la gorge et elle avait une chance sur 100 d'en sortir. La partie fut gagnée, mais le couteau du chirurgien avait touché les cordes vocales qui se refusèrent alors à remuer.
Je me trouvais encore en clinique. La gentille infirmière, la sœur Valie, m'annonça un jour une visite.
C'était la visite de l'oncle Gustave. L'oncle avait un chapeau melon, des gants beurre frais et des lunettes à double foyer sur des yeux semblables à des couteaux. Il ne quitta ni son pardessus ni ses gants. Il dit rapidement bonjour et s'assit sur une chaise très loin du lit. Il devait avoir peur des microbes. Sœur Vali sortit tout doucement, sur la pointe des pieds, après avoir recommandé à l'oncle d'être bref pour ne pas fatiguer Marianne.
L'oncle devait sans doute savoir que l'on venait de me couper la gorge d'un bout à l'autre. Il devait aussi savoir que ma blessure était encore à vif, qu'on ne m'avait pas encore retiré les agrafes.
Marianne, ta maladie nous a coûté les yeux de la tête. Les bons de la Défense nationale ont mangé tout ce qui restait de ton héritage.
À l'encontre de ce que me disait l'oncle, j'appris plus tard que tout ce que j'avais mangé, porté, dépensé jusqu'à ce jour était bien à moi. C'était ce que maman m'avait laissé.
À partir de maintenant, tu es complètement à notre charge. Il va falloir que tu nous obéisses et que tu n'en fasses plus à ta tête. Tu as toujours été un fardeau pour notre famille.
J'avais l'impression qu'une guêpe était entrée dans mes oreilles et bourdonnait. Je n'avais pas répondu un seul mot à l'oncle, mais il ne semblait pas l'avoir remarqué. Je ne pouvais pas parler. J'essayais de produire un son, mais en vain. Rien ne sortait de ma gorge. Enfin sortit un cri. Était-ce un rugissement de fauve ? Était-ce bien moi ? Soudain, il mourut, ce cri, et une énorme tache de sang se répandit sur le couvre-lit. Tout ce sang venait de ma gorge ouverte, d'où le cri s'était enfin libéré. Et la tache s'étendait.
Quelques instants plus tard, elle était de nouveau sur la table d'opération. On lui remit les trois agrafes qui avaient cédé sous l'impulsion du cri.
Mais une autre blessure s'était largement ouverte en moi, et celle-là, il fallait que je la referme moi-même toute seule. J'étais née dans un cadre qui n'était pas le mien, mais il y avait beaucoup de rues. Il me fallait en trouver une qui guiderait mes pas vers un monde à moi, un monde comme moi. Il fallait que toute la terre soit ma famille, puisqu'on n'avait pas voulu de moi dans la mienne. Et sans pouvoir m'expliquer, j'étais sûre maintenant que malgré toutes les barricades, je serai protégée.
Mais combien d'enfants mal-aimés ont-ils pu se libérer de leur enfance ? Combien ont eu la chance de guérir des blessures infligées par la société ? Et combien de crimes dans le monde ne sont-ils pas dus à une frustration originelle ? Les poètes, les écrivains ne l'ont-ils pas tant de fois montré ? Jean Genet, à propos de sa pièce « Les Bonnes », jouée et publiée en 1948, dit...
Lors de sa création, un critique théâtral faisait la remarque que les bonnes véritables ne parlent pas comme celles de ma pièce. Qu'en savez-vous ? Je prétends le contraire, car si j'étais bonne, je parlerais comme elles certains soirs. Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-mêmes quand nous rêvons ceci ou cela.
Et Jean Genet dit encore...
Les bonnes ne parlent ainsi que certains soirs. Il faut les surprendre, soit dans leur solitude... soit dans celle de chacun de nous.
On a dit des bonnes, la pièce de Jean Genet, que c'était la tragédie des confidentes. L'auteur, en effet, donne ici la parole à celle dont le métier est de se taire et d'obéir. Mais les deux sœurs qu'il met en scène, lasses de leur rôle muet, prennent la parole. Et c'est dans une parodie dramatique, pour jouer à être madame, cette madame qu'elles envient, qu'elles adorent et qu'elles haïssent, jusqu'à rêver de la tuer. Mais madame échappe à la mort. Et c'est Solange, pour aller jusqu'au bout du jeu, qui boira le poison qu'elle lui destinait.
Hurlez si vous voulez. Poussez même votre dernier cri, madame. Enfin, madame est morte, étendue sur le linoléum. Étranglée par les gants de la vaisselle. Madame peut rester assise. Madame peut m'appeler Mademoiselle Solange. Justement, c'est à cause de ce que j'ai fait. Madame et monsieur m'appelleront Mademoiselle Solange Le Mercier. Madame aurait dû enlever cette robe noire, c'est grotesque. M'en voici réduite à porter le deuil de ma bonne. À la sortie du cimetière, tous les domestiques du quartier défilaient devant moi comme si j'eusse été de la famille. J'ai si souvent prétendu qu'elle faisait partie de la famille. La morte aura poussé jusqu'au bout la plaisanterie. Oh, madame, je suis l'égale de madame, et je marche la tête haute. Non, monsieur l'inspecteur, non. Vous ne saurez rien de mon travail, rien de notre travail en commun, rien de notre collaboration à ce meurtre. Les robes ? Oh, madame peut les garder. Ma sœur et moi, nous avions les nôtres. Maintenant, j'ai ma robe et je suis votre égale. Je porte la toilette rouge des criminels. Je fais rire, monsieur. Je fais sourire, monsieur. Il me croit folle. Il pense que les bonnes doivent avoir assez bon goût pour ne pas accomplir de gestes réservés à madame. Vraiment, il me pardonne. Il est la bonté même. Il veut lutter de grandeur avec moi. Madame s'aperçoit de ma solitude. Enfin, maintenant je suis seule. Je pourrais vous parler avec cruauté, mais je peux être bonne. Madame se remettra de sa peur. Elle s'en remettra très bien, parmi ses fleurs, ses parfums, ses robes. Cette robe blanche que vous portiez le soir au bal de l'opéra. Cette robe blanche que je lui interdis toujours, et parmi ses bijoux, ses amants. Moi j'ai ma sœur, oui, j'ose en parler, j'ose, madame. Je peux tout oser. Et qui ? Qui pourrait me faire taire ? Qui aurait le courage de me dire « ma fille » ? J'ai servi. J'ai eu les gestes qu'il faut pour servir. J'ai souri à madame. Je me suis penchée pour faire le lit. Penchée pour laver le carreau. Penchée pour éplucher les légumes, pour écouter aux portes, coller mon œil aux serrures. Mais maintenant, je reste droite et solide. Je suis l'étrangleuse. Mademoiselle Solange, celle qui étrangla sa sœur. Me taire ? Madame est délicate, vraiment. Mais j'ai pitié de madame. J'ai pitié de la blancheur de madame, de sa peau satinée, de ses petites oreilles, de ses petits poignets. Je suis la poule noire, j'ai mes juges, j'appartiens à la police. Claire ? Elle aimait vraiment beaucoup, beaucoup, madame. Non, monsieur l'inspecteur, je n'expliquerai rien devant eux. Ces choses-là ne regardent que nous. Cela, ma petite, c'est notre nuit à nous.
Les crimes qui ont des conséquences atroces ne peuvent-ils pas être motivés par une passion subite, par un coup de sang, par la tentative ultime de sortir de l'indifférence quotidienne ? Dans « L'étranger » d'Albert Camus, le crime avec ses motifs inexplicables et soudains n'est-il pas admirablement exprimé ?
Toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. La rame n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qui m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et je crispais ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
«
Anna Labonne, qui traite un crime, est née au cours d'une de mes premières rencontres avec Jean Cocteau. Nous parlions d'un simple fait divers que nous avions lu dans les journaux. Une bonne venait de tuer sa patronne qui pourtant ne l'avait pas du tout maltraitée. Quel motif pouvait être derrière ce crime? On ne le sut jamais. Était-ce la haine, la jalousie, l'envie, le refoulement? En tous les cas, Anna Labonne, ma première chanson parlée, fit courir le tout Paris. Les critiques des journaux étaient absolument contradictoires. Mais des poètes, des écrivains, eux, comprirent que c'était là la transposition dans l'art d'un fait divers. Comprirent qu'une artiste apportait des tranches de vie sur les scènes des music-halls. Il y avait d'ailleurs parmi ceux qui assistèrent à la première d'Anna Labonne, Jean Genet. Il fut très impressionné par le poème.
Et aussi par votre interprétation, Marianne. Jean Cocteau n'a-t-il pas écrit à ce moment-là?
Il y a des œuvres qui sont tellement mêlées à l'interprète qu'on se demande si elles possèdent encore une attache quelconque avec leur auteur. Le propre de l'actrice est d'avoir l'air d'inventer le texte qu'elle dise. En ce qui concerne Anna Labonne, je me demande parfois si la moindre syllabe n'est pas l'œuvre de Marianne Oswald, et si cette pauvre servante d'hôtel pourrait s'exprimer sans l'accent sauvage et mystérieux de celle qui signe ses lettres, cette Marianne.
Anna Labonne, chanson parlée de Jean Cocteau. Ah, mademoiselle, mademoiselle Annabelle, mademoiselle Annabelle, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle Annabelle, sans doute, vous étiez trop bonne, trop belle et même trop jolie. On vous portait des fleurs comme sur un autel. Et moi, j'étais Anna la bonne. Anna la bonne de l'autel. Vous étiez toujours si polie et peut-être un peu trop polie. Vous habitiez toujours le grand appartement et la chose arriva. Je ne sais plus comment. Si, bref, j'étais celle qu'on sonne. Vous m'avez sonné une nuit comme beaucoup d'autres personnes et ce n'est pas assez d'ennui pour, enfin, pour qu'on assassine. Nous autres, on travaille, on dort. Les escaliers, les corridors, mais vous, c'était les médecines pour dormir. Ma petite Anna, voulez-vous me verser 10 gouttes? 10, pas plus. Je les verse toutes. Je commets un assassinat. Que voulez-vous? J'étais la bonne. Vous étiez si belle, si bonne. Vous receviez un tas de gens. Vous dépensiez un tas d'argent. Et les sourcils qu'on vous épile, les ongles et le sexe pile. Ah, mademoiselle, mademoiselle Annabelle, mademoiselle Annabelle, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle, mademoiselle Annabelle, vous croyez que l'on me soupçonne? La police, les médecins, je suis Anna, celle qu'on sonne. On cherche ailleurs les assassins, mais vos princes, vos ducs, vos comtes, qui vous adorez à genoux. Plus rien de ces gens-là ne compte. Le seul secret est entre nous. Vous pensez que je m'habitue? Jamais. Elle viendra demain. Vraiment, ce n'est pas soi qui tue. Le coupable, c'est notre main. 10 gouttes, Anna, mes 10 gouttes. Et je verse tout le flacon. Ah, cette histoire me dégoûte. Un jour, je finirai par sauter d'un balcon. Et cet enterrement, avez-vous une idée de ce qu'il coûte au prix où revient l'orchidée? Elle devait partir sur son yacht pour Java. La Java. On y va. On y va. On y va.
C'était Surgit de la mémoire, une émission conçue et écrite par Marianne Oswald, aujourd'hui La voix du crime, avec des textes et des poèmes de Albert Camus, Jean Cocteau, Jean Genet, Jacques Prévert, avec le concours de Martine Sarcey, Jean Topard, Jean Patrick et Marianne Oswald. Illustration musicale et accompagnement de Claude Roland. Prise de son René Cambien. Assistante de production Jeanne Dutray. Réalisation Jean-Wilfried Garrett.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 février 1966. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.